Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges et de partages. Après avoir mené des consultations, le groupe des 13 personnalités politiques et sociales signataires de l'appel du 11 juillet pour un consensus sur les réformes électorales a déposé le jeudi 17 septembre 2020 à l'Assemblée nationale une proposition de loi modifiant et complétant la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Pour eux, la proposition de loi déposée répond au souci d'efficacité dans l'amélioration de la loi électorale et rencontre les préoccupations soulevées par les uns et les autres sur la faiblesse de l'organisation du scrutin. Comment commentez-vous cette initiative? 081 890 4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Mise en onde réalisée par Polydor Basunga et pour moi, Pierrot et la Magie, c'est un réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour cet échange, nous avons en ligne les députés nationaux d'Eli Sesanga. Bonjour honorable.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un de ces 13 personnalités. Alors, avant peut-être d'évoquer la question du contenu, des éléments majeurs que vous avez proposés dans cette proposition de loi, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu les motivations de votre démarche d'une manière brève?
Ben écoutez, les motivations ont été très simples. C'est que face à une crise qui prenait place dans les institutions, on voyait la majorité comme l'opposition prendre le chemin de la rue pour parler de la question électorale, il nous est apparu essentiel de pouvoir parler avec tout le monde d'abord, afin de dégager un consensus et de voir ce qu'il était bon d'entreprendre dans l'intérêt du pays, afin que nous puissions aller aux élections de 2023 dans une plus grande quiétude et rompre avec le cycle qui veut que 2 ans avant les élections, on est en situation de crise extrême, et 2 ans après les élections, on est tout aussi en crise post-électorale, ce qui empêche le pays de se reconstruire et de se développer. Et donc, c'est pour mettre fin à ça que nous avons considéré que personnellement, j'ai pris contact avec un certain nombre de nos collègues, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition, pour pouvoir aller dans cette voie de la recherche, la construction du consensus.
Alors, est-ce que vous estimez que après les élections de 2006, 2011, 2018, chaque fois quand on précède les élections, il y a toujours des discussions, des fois on a eu même des dialogues, mais après le problème continue. Mais où se trouve exactement le nœud du problème?
Je vais vous surprendre. Je pense que le problème de ce pays n'est pas un problème d'abord politique. C'est un problème économique. On a transféré dans la sphère politique la gestion de problèmes économiques, c'est-à-dire l'accès à des ressources. Et on considère que la politique est le moyen le plus facile pour assurer cette distribution, soit à travers des fonctions, alors on forme des clientèles politiques, soit à travers la patrimonialisation de l'État, c'est-à-dire que les gens utilisent l'État pour leurs besoins personnels et de leur groupe. Et il faut mettre fin à cela. Et pour mettre fin à cela, on n'a pas d'autre choix que d'avoir des institutions qui soient libérées de la question de l'accès au pouvoir et qui soient concentrées sur les problèmes qui touchent nos concitoyens. Quels sont ces problèmes? Ce sont des problèmes liés à la sécurité, à l'affirmation de l'État dans notre pays. Ce sont des problèmes liés au fonctionnement de notre économie, qui doit créer des possibilités à la mesure de notre population. Je rappelle que nous avons une population d'environ 80 millions d'habitants et qui vit dans une extrême pauvreté. Et pour arrêter ça, il faudrait que la politique soit centrée sur la résolution des problèmes plutôt que de la gestion des ambitions qui sont exacerbées par les niveaux de pauvreté très élevés dans notre pays. Et donc, on ne peut pas être libre quand on est pauvre, et la pauvreté n'est pas compatible avec une gestion démocratique saine. Et donc, tant que nous n'aurons pas des dirigeants et un leadership assez fort pour changer les choses, faire en sorte que la production de la richesse nationale puisse aller vers la résolution de nos problèmes, eh bien, nous demeurerons dans cette situation. Et il y a des pays qui nous ont précédés sur cette voie. Vous savez, l'Haïti est indépendante depuis plus de 200 ans et elle croupit toujours dans les mêmes problèmes de malgouvernance. Donc, il faut faire attention que les questions liées à la dévolution du pouvoir ou l'accès au pouvoir soient des questions qui soient banalisées parce que gérées dans un consensus des règles, des principes et des comportements.
Alors, avant d'écouter les auditeurs qui sont nombreux à vouloir s'exprimer là-dessus, vous avez consulté plusieurs structures, plusieurs personnalités. Vous avez aussi été reçu par le chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est dégagé? Quelle est la volonté qui s'est dégagée d'une manière globale après toutes ces consultations?
D'abord, je rappelle que en ce qui nous concerne au niveau de mon parti à l'envol, nous avions lancé l'élan de réforme depuis juillet 2019 sur la révision de la Constitution, la révision de la loi sur la CENI, la révision de notre système électoral. Lors de notre bureau politique tenu ici à Kinshasa, nous avions annoncé ces mesures. Aujourd'hui, nous avons vu d'autres collègues, notamment Lutundula, qui au mois d'août de l'année 2019 avait aussi engagé d'autres initiatives. C'est en fait l'élan de toutes ces idées que nous avons essayé de partager de manière beaucoup plus large au sein de la classe politique pour pouvoir aller de l'avant. Et aujourd'hui, aussi bien au niveau de la société civile que de la classe politique, on a trouvé cette écoute parce que tout le monde évoquait l'idée des réformes, mais sans en donner un contenu. L'avantage de la démarche que nous avons menée, ça a été de partager un cahier des charges, donc avec des propositions sur lesquels les gens pouvaient réagir, et à l'issue de ces consultations, nous pouvions donc donner un visage ou un contenu à ces axes de réforme. Mais la discussion continue, parce que nous savons que, bien évidemment, nous n'avons pas rencontré tous les groupes politiques, nous n'avons pas rencontré tous les groupes sociaux, et que les institutions, à un moment donné, devront pouvoir s'impliquer là-dedans. Mais il est très important, quelle que soit l'issue que nous aurons à la fin de cette démarche, qu'un consensus fort se dégage sur la manière dont on entrevoit l'organisation des élections de 2023.
Voilà, on va revenir à vous pour aborder aussi la question des éléments clés hein, qui sont contenus dans votre proposition des lois, parce que c'est ça aussi ce qui fait débat aujourd'hui, les éléments majeurs. Mais on va d'abord écouter le premier groupe d'auditeurs, on va revenir à vous. Alors, Andreas est à Kalemi et Hassani à Bukavu. Commençons d'abord avec Hassani qui est à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Hassani, bonjour.
Bonjour monsieur Guillaume, bonjour à Denis Sanga et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute Hassani. Hassani, on vous écoute. Voilà. Il y a des petits soucis hein, sur la ligne d'Hassani. En attendant que la réalisation voie comment régler cela, nous écoutons Andreas qui nous appelle de Kalemi. Andreas, bonjour. Andreas, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, les deux auditeurs posent problème. Ça nous permet d'ailleurs de pouvoir revenir directement à notre invité Delice Sanga. Voilà, alors en attendant, nous avons Joseph qui est avec nous. Joseph, bonjour. Joseph, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, Radio Kapi.
On vous écoute, Joseph. Vous êtes à Kananga, au Kasaï Central.
Merci beaucoup de la parole. Merci aussi pour ce sujet combien important. Qui parle de la proposition déposée par le G7, le G13. Je tiens aussi rapidement à féliciter le groupe des 13 pour ce travail abattu, parce que, comme vous le savez, ça fait très longtemps que le peuple congolais se plaint toujours, se pose plusieurs questions par rapport à la réforme électorale, et parce que cette proposition vient ça tombe à point nommé parce que ça vient résoudre certaines questions que nous nous posons toujours, notamment la question du seuil la question de détour pour la présidentielle, bien d'autres. Et comme vous le savez, monsieur le journaliste, la réforme électorale, c'est vraiment important pour ce Mapus, que nous voulons avoir des élections apaisées, crédibles, en 2023. Mais cela peut être faisable lorsque nous avons de bonnes réformes qui répondent aux principes démocratiques. Vous savez que la loi a un caractère général, la loi doit avoir un caractère impersonnel. Mais vous savez que la loi de 2017 plutôt, cette loi-là vient poser de sérieux problèmes. Parce que vous trouverez que la loi n'était pas, vient poser le problème des seuils. Avec le système des seuils, ça prive complètement aux autres partis politiques faibles de pouvoir avoir des députés au niveau de l'Assemblée ou au niveau d'autres élections. Mais si cette proposition de loi qui a été proposée par les G13, nous la saluons, mais notre inquiétude sur les députés qui sont majoritaires au niveau de la Chambre basse. Est-ce qu'ils pourront aussi le faire pour que cette loi soit votée? C'est ça notre inquiétude. Mm-hmm. Mais nous le demandons parce qu'ils sont députés, ils représentent la nation tout entière. Ils doivent aussi dissocier le sentiment dans leur travail. Parce que fondamentalement, nous attendons que cette proposition soit votée pour que nous puissions, nous le peuple congolais, nous puissions aussi voir clair dans la manière de préparer les élections. Parce que vous savez, déjà au point pratique des élections, ce n'est pas facile. Il faut aussi qu'on change, qu'on sente réellement que la République démocratique du Congo est en train aussi d'avancer sur le plan démocratique. Parce que si aujourd'hui on vote des lois taillées sur mesure, ça a un impact négatif sur la démocratie dans notre pays.
Merci. Vous voyez, merci beaucoup.
Complètement,
voilà. Merci beaucoup Joseph. Vous avez salué le travail abattu par le groupe des G13, mais votre inquiétude, c'est au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que la proposition de loi pourra-t-elle passer quand il y a une majorité, bien sûr, est-ce que le FCC pourra accepter de faire passer cela? D'ailleurs, c'est l'inquiétude aussi exprimée par notre ami Guy Kambou Imbanza qui est à Kananga au Kasaï central. Il dit c'est une bonne chose, il faut quand même qu'on arrive à éradiquer les conflits post-électoraux. Mais mon inquiétude, c'est au niveau du Parlement, est-ce que la majorité va-t-elle accepter de faire passer ces propositions du groupe des G13? François, vous êtes à Ilebo dans la province du Kasaï. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour François.
Bonjour Michel, bonjour Président, bonjour Kiro et MNG.
On vous écoute François.
Merci beaucoup pour les sujets pertinents. Je pense que ce qu'il y a à la ligne actuellement en RDC, ce sont les élections de 2023. Comment les étudier pour éviter les contestations que nous avons connues en 2010, 2011 et 2018. Moi je salue la proposition du groupe qui a proposé la réforme électorale. Mais je pense que, au-delà de tout ça, c'est comme les autres prédécesseurs ont dit, c'est question que la majorité puisse triompher. Parce que vous pouvez avoir des bonnes initiatives. Mais tant que la majorité qui est au Parlement, qu'on passe par les votes, n'admet pas votre proposition, ça sera nul et sans effet. C'est pourquoi nous réveillons nos parlementaires qui nous représentent à l'Assemblée nationale, de prendre en conscience, prendre avec beaucoup d'intérêt toutes les propositions qui cadrent dans l'intérêt général de la population. Puisque aujourd'hui, chers journalistes, moi je suis très content de la Radio Capi, comme vous êtes en train de parler des élections pour éviter les erreurs de 2018 et afin que 2023 ça soit vraiment erré. Il faut que la réforme soit efficace à tous les niveaux, en tenant compte de la compétence et de la crédibilité des électeurs. Il ne faut pas tenir compte, comme autrefois qu'on parle par les défenseurs qui disaient qui avaient donné les critères. Non, c'est question de la volonté, c'est question de servir son pays, question de servir sa nation pour être un modèle en Afrique, être un modèle dans le monde. Donc, je salue l'idée de la réforme que les autres ont proposée, mais j'ai la crainte si ces idées peuvent passer à l'Assemblée nationale où il y a des tendances entre les CACH, FCC, la MUCA et consorts. Mais nous les appelons tous à l'unanimité de privilégier l'intérêt général de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays.
Merci beaucoup, François. Au-delà des divergences de vues, au-delà des clivages politiques au sein à l'Assemblée nationale, vous estimez que l'ensemble de vos élus devraient regarder dans la même direction parce que les processus, les propositions sont nécessaires. C'est l'appel presque lancé par la plupart d'internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, Expéri Assambi, qui est à Kisangani. Il salue le travail abattu par le groupe des G13, mais il revient aussi en appelant les élus au niveau de l'Assemblée nationale de considérer l'intérêt de toute la population au travers de ses propositions, plutôt que de se cramponner sur son camp politique. On écoute Andreas qui est à Kalemie. On revient à notre invité Delice Sanga pour réagir. Andreas, vous êtes avec nous? Bonjour. Voilà, des soucis avec Andreas. Cette fois-ci, c'est Hassani. Vous êtes à Bukavu. Hassani, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à Denis Ndangala. Cette initiative prouve la détermination des groupes des autres étudiants d'une manière légitime, ainsi que la structure électorale de notre cher pays, la République démocratique du Congo, à revenir à sa mission initiale et non de porter des cassettes comme on l'observe en ces derniers temps. Donc, les animateurs se constituent en bouclier de certains partis politiques du pays qui accroupissent les Congolais dans la misère. Le G13 veut aider notre pays à sortir de cette dépendance qui plonge le pays après chaque échéance électorale dans le pire sans précédent. Donc, en poussant cette structure électorale à organiser des élections crédibles et transparentes qui pourront impliquer intégralement la participation des souverains primaires. La démarche de 13 personnalités montre que ces personnalités ne sont pas poussées d'une quelconque pression et sont déterminées pour le bien-être du peuple congolais victime de nombreuses irrégularités du système électoral. Nous sollicitons l'approbation de cette loi par l'Assemblée nationale afin de prévenir le pire des prochaines élections dont les tensions sont vives déjà jusqu'à ce jour.
Merci beaucoup Hassani. Nous revenons ici à Kinshasa avec vous, Monsieur Delice Sanga, député national. Vous avez suivi les compatriotes, quelques-uns aussi qui se sont exprimés sur notre page Facebook. Tous, ils saluent votre démarche, mais il y a quand même un peu d'inquiétude, c'est par rapport à l'adhésion de tout le monde au niveau de l'Assemblée nationale. Mais bien avant que vous puissiez peut-être répondre aux auditeurs, pourriez-vous nous donner les grandes lignes qu'on peut considérer comme innovation dans votre proposition des lois, et après vous allez réagir par rapport aux inquiétudes des auditeurs?
Bon, d'abord, nous sommes favorables à la suppression du seuil, parce que le seuil a été un instrument d'injustice, a été manipulé pour exclure et récomposer la majorité sans respecter véritablement le choix exprimé par notre peuple. Et nous pouvons le démontrer. Contrairement à l'idée théorique qu'on en donne, le seuil n'a pas permis de sélectionner les grands partis politiques ou les grands groupes. Le seuil a été justement utilisé pour organiser à plus grande échelle la fraude électorale. Et les citoyens qui aujourd'hui sont contre le seuil savent de quoi ils parlent. Nous avons dit, pour pouvoir favoriser quand même les grands regroupements et les partis politiques, pour qu'un parti politique, sa liste soit recevable au niveau national, le parti doit présenter au moins 60% des candidats sur des sièges en compétition. Autrement dit, pour les législatives aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une liste qui a moins de 300 candidats. Moins de 300 candidats, la liste ne serait pas recevable. Ensuite, nous avons proposé l'abandon du mot de scrutin proportionnel pour aller vers le scrutin majoritaire. Parce que le scrutin majoritaire est beaucoup plus clair, les citoyens comprennent de quoi il s'agit. Ça va nous épargner d'avoir ces députés de 500 voix, de 1000 voix, qui n'ont pas de base de légitimité et qui viennent représenter des circonscriptions et qui sont en réalité des mercenaires au sein de l'Assemblée nationale, et qui savent qu'ils n'ont pas la représentation de la population dans leur circonscription, et parfois jusqu'à ignorer leur existence dans leur circonscription. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de députés ne reviennent pas dans leur circonscription pour ceux qui ne sont pas véritablement légitimes. Ils viennent, ils font du mercenariat et puis ils repartent. Donc nous voulons que là où il y a 4 sièges, les personnes qui sont élues véritablement par leur base soient ceux qui représentent ces circonscriptions au niveau national. Ensuite, pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs, quoique maintenant l'élection au second degré, nous avons voulu un système de filtrage, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être candidat gouverneur dans une province où il n'a même pas un député parce que ceci favorise la corruption et l'achat de conscience. De même pour les sénateurs. Et nous avons interdit à ce que dans une province, on puisse avoir plus de 2 sénateurs provenant d'un même territoire ou d'une même ville, parce que la représentation sénatoriale doit traduire la diversité d'une province. On a vu des provinces où des personnes sans attache dans la province représentent la province et très souvent parfois sont issues d'un même territoire ou d'une même ville, empêchant à ce que nous ayons au sein du Sénat cette diversité. Et enfin, nous avons proposé également cette interdiction de pouvoir avoir ses parents en ligne directe, collatérale, ascendante ou descendante, jusqu'au 2e degré inclus, comme suppléant dans les assemblées provinciales. En ce qui concerne les inéligibilités, nous avons exclu la possibilité définitive pour celui qui est condamné pour des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, d'être candidat quel que soit le niveau. Mais en revanche, pour les autres infractions, quelqu'un peut revenir lorsqu'il a purgé la peine de sa condamnation. Aussi, quelqu'un ne peut plus être candidat, député provincial, député national. Parce que généralement, on a observé que lorsque quelqu'un est candidat député national, député provincial, il chauffe un siège pour un parent ou pour un proche qui lui-même ne se sent aucune obligation, aucune redevabilité par rapport aux électeurs. Donc cette pratique, il faut qu'elle soit abolie. Et donc, le suppléant aussi, comme contrepartie, et ça on ne le dit pas assez, puisqu'on ne peut plus présenter des parents, c'est lui qui accepte d'être suppléant d'un député. Lorsque ce député est élu et que ce suppléant a siégé, ce suppléant ne peut pas venir en concurrence de ce député pour l'élection subséquente dans la même circonscription. Pour les fonctionnaires, on dit qu'un fonctionnaire doit avoir déposé sa démission ou sa mise à disponibilité. Généralement, ces mises à disponibilité ne sont pas faites. Et donc, les gens vont en campagne en utilisant les moyens de l'État. Maintenant, nous avons demandé que 2 ans avant les élections, la personne doit pouvoir être sortie de la fonction publique. Parce qu'il faut que l'on sache. Vous voyez aujourd'hui les problèmes que vous avez avec la coalition actuelle. On parle d'administrer les territoires. On est en train de tuer dans l'est du pays, à Djougou, à Mahagi, Aru, partout là-bas, il y a des assassinats, Beni, Butembo. Au lieu d'administrer les territoires, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent non, ils doivent se partager les postes des administrateurs des territoires pour des raisons politiques. Et donc, on a tué l'administration au service des politiques. Donc, nous disons aux gens, si vous voulez aller dans l'administration, vous devez servir l'intérêt général. Et si vous voulez aller aux élections, il faut que vous soyez sortis effectivement de l'administration 2 ans avant. Ça va nous empêcher d'avoir ces candidats qui viennent et qui pillent la République, qui pillent les entreprises publiques, qui pillent les administrations locales, juste parce qu'ils doivent préparer les élections et qu'ils sont en mission commandée. Alors, le vote électronique également a été mieux régi et mieux organisé dans la loi. Je vous épargne ici des détails que nous pourrons développer dans un point de presse que nous allons organiser dans les jours qui viennent. Et donc, toutes ces innovations vise à mettre une plus grande traçabilité des résultats, une plus grande transparence, un contrôle citoyen beaucoup plus aguerri et basé sur des éléments factuels que tout le monde peut voir. Alors, j'ai entendu que tous les auditeurs que vous avez interrogés, ceux qui ont réagi par Facebook, tous disent qu'ils sont d'accord avec nos propositions et je les remercie pour ce soutien. En revanche, ils posent la question, est-ce que la majorité ne va pas bloquer ? Je dis oui et non. La majorité n'est pas bloquée que si eux considèrent que ce combat est un combat du G13. Ce combat n'est pas celui du G13. Ce combat n'est pas celui de l'honorable Sessanga ou de l'honorable Lubaya ou de l'honorable Lokondo. c'est un combat du peuple congolais. Nous demandons à ce que le peuple congolais, dans ses différents segments, dans ses différentes associations, partis politiques, majorité ou opposition, qu'on puisse se mobiliser pour exiger des institutions le respect ou la mise en œuvre de ces réformes qui permettent de mettre davantage la clarté dans le système électoral. La deuxième chose, c'est que tous ceux qui appellent ont été électeurs. Ils ont des députés dans leur circonscription. Ils doivent peser sur leurs députés pour leur faire pression pour qu'ils ne subissent pas au sein de l'Assemblée nationale la pression, le mot d'ordre qui vient de groupe pour dire vous devez voter dans telle direction ou dans telle autre direction qui va au contraire du sens de l'intérêt général. Et donc ça, c'est un élément important que nous devons pouvoir mettre en œuvre parce qu'il nous faut un agenda citoyen où tout le monde est mobilisé et est conscient du fait de ces enjeux et que ces enjeux ne vont pas triompher simplement par l'action du G13, mais qu'elles vont triompher avec l'appui et le soutien de tout le peuple congolais que nous appelons à une mobilisation générale pour que ces propositions puissent triompher au niveau de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, en 2015, j'avais fait la loi que le bureau de Minaku avait voulu truander en essayant de manipuler pour subordonner la tenue des élections à un recensement préalable. C'est la mobilisation populaire qui a fait reculer une majorité. Et donc, s'il y a une mobilisation populaire autour de ces réformes, puisque tout le monde est d'accord avec ces réformes, je crois que le message sera entendu.
Alors, il y a encore un groupe d'auditeurs parce que, comme je l'ai dit, le débat a suscité, bien sûr, le sujet a suscité un grand débat sur les réseaux sociaux et en direct aussi nombreux qui voudraient intervenir. Il y a notre ami Benjamin qui est ici à Kinshasa, Sébastien à Congolo. Alors, en attendant, il y a plusieurs personnes qui commentent sur la page Facebook et il y a, par exemple, Drose qui dit ceci. Il est à Kikwit. Il dit merci beaucoup Radio Kapi pour cette thématique. La démarche des G13 est salutaire dans la mesure où ses propositions touche au problème que nous avons vécu durant 3 échéances électorales. Alors nous les encourageons et nous savons que ce sont des hauts cadres, comme il a écrit, ce sont des hauts cadres de ces pays et surtout qu'ils ont aussi été reçus par le chef de l'État. Ça montre qu'il y a la volonté de pouvoir évoluer dans les bons sens. 081-890-4969, c'est pour intervenir en direct. Et on revient à Benjamin et Sébastien.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et Benjamin, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aux auditeurs de la radio Capi et surtout à notre chère émission Parole aux auditeurs.
On vous écoute.
À l'entrée des jeux, je salue d'abord la démarche du groupe des 13 parlementaires qui a un sondage pour découvrir que veut le peuple sur les élections de 2023. Pour le modus operandi de l'élection, il est certes vrai qu'il faut une proposition de loi modifiant l'actuelle loi électorale qui a favorisé un groupe politique, un groupement politique quelconque et non la volonté du peuple, car cela a occasionné une élection chaotique et surtout chaotique. Et cette élection, d'ailleurs, a été qualifiée d'une parodie d'élection par sa théorie d'essai électoral. La problématique d'essai électoral, vous savez, Monsieur Pierrot, la République démocratique a été embrayée, a été vraiment embrayée. Pourquoi? La compréhension d'abord des essais électoraux. Et cette notion a suscité beaucoup de contestations dans des circonscriptions. J'ai un exemple très frappant. Il y avait un camarade, parce que nous étions au Mouvement, le camarade était candidat, Monsieur Conde, paix à son âme, dans ce territoire au Kassai. Donc, il était le deuxième meilleur élu de sa circonscription. Malheureusement, que son parti n'avait pas atteint les seuils. Et le gouverné, qui était d'ailleurs le premier élu, et donc on a fait déclasser les camarades. Mais sur la liste, il était parmi le meilleur élu, le deuxième, bien sûr. Et vous allez comprendre avec moi que l'élection crédible et transparente, comme évoque l'invité, c'est d'ailleurs salutaire, c'est ce que veut le peuple. Et si nous voyons de l'autre côté, vous voyez, il y aura un blocage. C'est que moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, vous savez, l'Assemblée nationale, la majorité et surtout par le bénéficiaire de cette parodie d'élection. Et vous allez comprendre, je vous avoue d'ailleurs, qu'ils vont s'opposer à cette proposition de la loi. En refusant, pour moi, j'ai dit avec les amis, par les petites mobilisations que nous avons essayé de faire sur le terrain, si l'Assemblée nationale, par la majorité des bénéficiaires de cette parodie d'élection de 2018, ose dire des comptes pour soit d'opposer à cette proposition de la loi, là, ils vont nous raccorquer sur leur chemin, c'est-à-dire qu'il y aura des marches. Et vous savez, sur le mode d'élection, ce qu'on m'a dû l'inviter sur le gouverneur, élection municipale et urbaine, donc, vous savez, la force ou la résistance d'un arbre, c'est au niveau de ses racines. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on puisse voter d'abord le bourgmestre, parce qu'aujourd'hui, vous allez réclamer quelque chose auprès d'un bourgmestre, donc, comme il est rédévable devant l'autorité qu'il avait nommée. Mm-hmm.
Donc, ici, Benjamin, vous vous inscrivez dans la logique de commencer comme plusieurs compatriotes l'ont exprimé dans notre émission de la semaine passée, qu'il serait mieux de commencer par les élections à la base et aller terminer au niveau de l'élection présidentielle. C'est ce que vous proposez, mais vous encouragez et vous êtes derrière cette proposition du groupe des 13. Mais au même moment, vous lancez aussi un appel à mobilisation pour dire que si jamais il y a un blocage au niveau de l'Assemblée nationale, il ne revient qu'à vous, électeurs, de pouvoir vous mettre debout pour pouvoir défendre cela. C'est ce que nous écrit aussi Simon Tiloulou, qui nous écrit de Matadi. Il estime qu'il revient à la population de pouvoir se mobiliser de toutes les façons pour pouvoir soutenir ces réformes, n'est-ce pas? C'est Chico Baza qui est ici à Kinshasa, dit la même chose. Il revient à ce que les élus comprennent l'importance de ces propositions. C'est voilà presque le message qui revient sur la page Facebook. Et puis, nous avons Sébastien qui nous appelle des Congolos. Sébastien, bonjour.
Bonjour, Sébastien Idi. Le groupe de 13 personnalités politiques et sociales est venu, a vu et a vaincu en déposant une proposition de loi portant conversion des élections à tous les niveaux à l'Assemblée nationale, à la grande satisfaction des Congolais avertis. Avec le retour à la présidentielle, fini le culte de la personnalité. À l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale, plus question des membres issus d'une même famille biologique pour représenter le peuple. Adieu le népotisme. Qui plus est, les gouverneurs de province, les sénateurs doivent être élus au suffrage direct. Voilà une bonne façon de contourner la corruption qui a élu domicile dans cette sphère politique, cette corruption qui a terni l'image de notre pays. En fait, cette proposition de loi, si jamais elle est adoptée par l'Assemblée nationale, permettra d'obtenir des élections apaisées, crédible et réellement démocratique à partir de 2023. Ainsi donc, les élections partisanes figureront dans cette page noire et nous allons assister à l'enterrement de la crise de légitimité du pouvoir en République démocratique du Congo.
Merci. Merci beaucoup Sébastien, vous avez dit c'est une grande satisfaction pour des Congolais avertis. Vous saluez cette démarche et d'ailleurs vous avez soulevé quelques lignes, n'est-ce pas, de la proposition des lois et vous estimez que cela va amener le pays à mettre fin à ces différentes crises de contestation des légitimités. Dodé, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour Dodé.
Bonjour monsieur Pierrot. Bonjour également à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices de la présence de la paix.
On vous écoute, Dodé.
Merci, Pierrot, de nous avoir associés à participer à cette échange citoyen. Nous sommes tellement contents de la thématique du jour, car elle porte sur des questions qui sont à la ligne. L'initiative du groupe des 13 personnalités politiques est largement salutaire, du fait que les pionniers de cette initiative ont en premier lieu entamé des consultations à l'égard de toutes les forces vives de la nation. Tout ceci, enfin, de permettre, ou pas, ça dit quoi. Donc, cette démarche s'inscrivait dans les dix avoués de rencontrer les préoccupations majeures et les points chauds qui divisent les uns et les autres, afin que l'on aboutisse à un large consensus. Mais la crainte de l'aboutissement de cette proposition de loi est si grande du fait que, malgré que l'article 101 de la Constitution, à travers quelques alinéas, dispose que les députés nationaux représentent la nation et tout mandat impératif est libre. Mais dans la pratique, vous vous rendez compte, M. Pierrot, que nos élites se comportent comme s'ils avaient un mandat impératif en agissant conformément aux injonctions émanant de leurs obédiences politiques, même si les dites injonctions ne vont pas dans le sens de satisfaire l'intérêt général de la population. C'est pourquoi nous appelons les uns et les autres de faire preuve de plus de responsabilité et surtout à un sursaut patriotique. Notre souci est de voir cette proposition de loi être adoptée à la première. Car selon moi, cette proposition qui incarne les aspirations de toutes les forces vives de la nation. C'est-à-dire, cette proposition a eu à tenir compte des points de vue des différentes forces politiques consultées. Et pour finir, nous avons trois petites préoccupations à soumettre à l'invité. La première, au cas où cette proposition de loi n'arriverait pas à être adoptée par le Parlement, nous aimerions savoir quelle serait l'éventuelle hypothèse ou alternative que le groupe des 13 personnalités politiques envisagerait à amorcer ou à faire. La deuxième, ne voyez-vous pas l'échec à l'avance de cette proposition de la loi du fait que l'autorité morale de la famille politique majoritaire au Parlement n'avait pas été consultée? Enfin, de rencontrer aussi ses préoccupations majeures quant au sujet. Et la dernière, j'aimerais savoir la position du groupe des 13 personnalités politiques en ce qui concerne le financement du processus électoral. Est-ce qu'ils partagent aussi la même proposition formulée par le président du Sénat, Alexis Tambwe, ou soit ils ont aussi un avis contraire? Si oui, lesquels? Je vous remercie, monsieur.
Merci beaucoup, merci Dodé. On a suivi vraiment que vous suivez très très bien l'actualité qui touche à la question électorale. On a même vu ça sur le commentaire par rapport à la page Facebook. Directement, nous allons accorder la parole à notre invité, le député national d'Élise Sanga. Il y a ces inquiétudes qui sont revenues, mais il a déjà répondu. Il y a quand même notre ami Benjamin de Kinshasa qui estime qu'il revient à la population à pouvoir s'engager dans la défense de cette proposition. Et vous avez poser ces questions directes à notre invité. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives au cas où on refusait la proposition des lois? Est-ce que le fait qu'il n'y a pas peut-être eu consensus autour de... Vous n'avez pas consulté l'autorité morale du FCC? Je pense que c'est ça la question que vous posez. Et la question de financement, que pensez-vous tout ça? Voilà autant de questions. Et puis, Délice bon, Sanga, question, on vous accorde la parole, oui.
La question de financement, je sais pas ce que j'ai voulu faire l'économie et... épargner les auditeurs d'un certain nombre de détails.
Okay.
Nous avons travaillé sur une feuille de route qui est produite et qui montre comment est-ce que nous pouvons tenir les élections dans le délai et que en 2023, les élections puissent avoir lieu. Vous savez qu'au départ, on nous a accusé de beaucoup de choses.
Oui.
On nous a accusé de chercher un partage de pouvoir. Aujourd'hui, les gens savent que nous n'en voulons pas. Les gens nous ont accusé de vouloir reculer les élections, mais aujourd'hui, ils sont persuadés que c'est plutôt le contraire que nous voulons. Nous voulons les élections en 2023. Et nous avons une programmation financière que nous avons élaborée. Et nous avons suivi le président du Sénat qui a repris une de nos propositions phares de notre rapport qui parle de la création d'un compte d'affectation spéciale qui doit recevoir chaque année une quotité du budget afin d'alimenter la gestion financière des élections. Nous avons évoqué également la question du recensement électoral, comment élaborer ce recensement et que ce recensement ne devienne pas l'arbre qui cache la forêt pour retarder les élections. Il y a une possibilité aujourd'hui de pouvoir lancer l'opération d'identification des électeurs, mais que cette base d'identification des électeurs puisse servir de base également pour créer un registre des nationaux et que les Congolais puissent avoir une carte d'identité et que ce registre des nationaux soit mise à jour régulièrement par les administrations pérennes et permettre qu'en 2028, lorsqu'il y aura des élections en 2028, on n'ait plus besoin d'identifier des électeurs et de dépenser 400-500 millions de dollars pour un fichier et qu'on soit simplement en train d'extraire un fichier du fichier des nationaux. Donc toutes ces questions ont été élaborées et notre rapport a abordé de façon globale la question électorale et formulé des réponses qui correspondent aux attentes de notre peuple et des réponses qui rencontrent les préoccupations des principaux interlocuteurs que nous avons vus. Et bien évidemment, l'autorité morale de, comme vous l'appelez, du FCC, Joseph Kabila, qui avait manifesté le souhait de nous rencontrer, comme d'ailleurs son camp politique, a préféré nous répondre par le biais
de se communiquer en disant qu'ils voulaient le débat dans les institutions. Nous pensons que ce n'est pas perdu, nous avons déposé les éléments et que ce débat doit avoir lieu. Mais ce débat n'est pas seulement l'apanage des hommes politiques. Ce pays ne nous a pas été vendu ni à la majorité ni à l'opposition. Ce pays appartient à tous les Congolais, quelles que soient leurs conditions et leur lieu de résidence. Ce à quoi nous appelons le peuple congolais, c'est de se mettre debout aujourd'hui pour s'approprier ces réformes afin de s'approprier du processus électoral. Le processus électoral ne doit pas être une affaire des politiciens cachés quelque part. Ça doit être une affaire de la nation et du pays. Et moi, j'invite à ce que, au travers d'un agenda citoyen où tout le monde se reconnaît déjà dans le cadre de ces réformes,
exact,
tout le
oui.
monde se mette debout pour pouvoir en exiger le respect. Il n'y a pas que le G13, il y a la société civile que nous avons rencontrée, qui a travaillé, les missions d'observation électorale, les partis politiques. Et donc, c'est tout ce monde, toutes ces composantes de la société que nous voulons maintenant mobiliser dans un élan de pression sur les institutions pour obtenir des réformes qui soient en adéquation avec les attentes. Quand je suis les interlocuteurs qui interviennent les uns après les autres, je vois que leurs attentes sont exactement les nôtres et que les moyens pour pouvoir répondre à ces attentes, c'est que cette réforme passe. Alors s'ils veulent que passe, il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'on soit là pour faire pression, y compris sous la majorité, pour qu'ils comprennent. Encore que nous n'excluons pas la possibilité, dans le cadre des institutions, de parler avec cette majorité, parce qu'elle a souhaité que ce débat se passe à ce niveau.
Alors, on va écouter, je crois, le dernier groupe d'auditeurs pour revenir avec vous. On va bientôt chuter, je crois, très bien. C'est très intéressant, le débat, il est assez soutenu sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ronstan, vous êtes à Likasi. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Ronstan. Ronstan, vous êtes avec nous, bonjour. Ronstan, bonjour. Voilà, Ronstan est un peu distrait sur sa ligne téléphonique. Jean-Baptiste, vous êtes à Kisangani. J'ai vu tout à l'heure votre commentaire sur cette question de la proposition des lois du groupe, comme on appelle G13. Alors, on est avec vous sur les antennes. Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, et puis spécialement sur le territoire d'Aro et du Grand Centre d'Ariora, et puis de Kisangani.
On vous écoute, Jean-Baptiste.
Merci beaucoup de nous avoir associés encore une fois de plus dans cette interaction. C'est un sujet hyper important. La proposition de loi déposée récemment par le 13, par le Mater, je vais dire comme ça, est d'une très très grande envergure. D'autant plus qu'elles permettront de décaper les principaux défis ou confusions électorales, surtout de nos lois électorales. Et en revanche, nous pouvons continuer à en hésiter de la prise en compte de cette proposition, car au fond, la question de l'idéologie politique faire et les différentes partis ou coalitions politiques en RDC ne se mettront pas du tout d'accord sur le sujet, car chacun sait ce qu'il prépare. Aux élections prochaines, il s'agit tout simplement des questions de terrain. On l'a même vu récemment ici, lorsque on a voulu organiser un forum sous l'auspice du professeur Bob Kapamba, on a vu le refus catégorique de deux alliés de la coalition sur l'FCC, et des caches, et quant à eux, ils ont dit que c'était une question purement institutionnel, alors qu'au fond, ces forums devraient réunir les différentes parties prenantes de la scène politique en RDC, notamment l'opposition, c'est-à-dire la coalition Lamuka, avec ses différentes représentativités, et puis c'est de la majorité. On parle majorité, si on fait allusion bien sûr à la coalition FCC, avec les différentes représentativités. La finalité, c'est donc de discuter les défis, bien sûr, de confusion électorale, de nos lois électorales, pour que nous puissions trouver des pistes de solutions. Et en fait, d'éviter certains imbroglios auxquels nous avions assisté aux élections antérieures. Mais malheureusement, ça a été contesté, et donc, du coup, ça sera aussi le même cas pour cette proposition de loi. Voilà, par quelque sorte, la façon dont moi personnellement j'apprécie ce sujet sur sur la déposition de cette proposition électorale de l'électorale par ce 3 par ces 13
personnalités. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste, vous soutenez, mais vous estimez aussi que la prise de position des uns et des autres au sein de la coalition risque de fragiliser la démarche, mais rappelons quand même que beaucoup de gens estiment, même le fait déjà que le FCC estime qu'il faut engager des discussions au niveau des institutions, notre invité pourra nous expliquer ça veut dire quoi exactement, engager des discussions au sein des institutions, ça montre quand même qu'on veut participer à un débat autour du processus électoral, quand bien même on le veut au sein des institutions. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Beaucoup de commentaires sur la page Facebook. Gilbert Moulomba, il soutient la démarche, mais pour lui, il revient comme les autres en disant, est-ce que ça va passer au niveau du FCC, en parle en termes de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, c'est presque tous les compatriotes qui reviennent sur cette question, mais aussi beaucoup, comme Émile Diamandé, tous arrivent à lancer ces messages en direction de la classe politique au niveau de l'Assemblée nationale pour leur dire, ils doivent considérer que la question de réforme, c'est pas une question seulement de 13 personnes, mais c'est une question qui va de l'intérêt de toute la population. Voilà un peu ce qui ressort de l'ensemble des messages sur la page Facebook. Alors, Ronstan, vous êtes à Likassi, je crois cette fois-ci c'est bon, la ligne. Bonjour Ronstan.
Bonjour monsieur le journal.
On vous écoute.
Oui, comme tous les autres, on commence d'abord par remercier ces 13 parlementaires qui ont fait du souci de la population un problème, qui ont pris la charge de la République. Nous espérons que leur loi là ne sera pas contestée parce que nous connaissons tous la manière de faire de nos députés. Vous vous rappelez, il y a plusieurs demandes plusieurs lois qui ont été faites à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, ça finit toujours en queue de poisson. Mais ce que nous pensons, c'est que cette majorité comme opposition de l'Assemblée nationale va comprendre que cette loi n'est pas seulement une loi qui vise seulement les élections 2023, mais c'est une loi qui va nous accompagner tout au long de l'histoire de la République, parce que quand vous êtes quelque part, quand on vous parle des élections de la RDC, l'image est toujours mauvaise. Vous allez vous rappeler de 2006, 2011, et toujours après les élections, il y a cette histoire-là de problème de légitimité. Et nous pensons que nous insistons tellement que les députés prennent cette histoire, qu'ils s'approprient cette loi, qu'ils en font une loi pour la République afin de trouver des solutions aux problèmes de la République.
Merci beaucoup, Ronstan. Voilà. Et là, vous inscrivez dans la logique pour dire que la loi, elle est impersonnelle. Un compatriote l'a dit en début d'émission. Ils doivent considérer que c'est pas une affaire des élections de 2023 seulement, mais c'est une affaire de la nation pour l'avenir. Alors, on va écouter Marie-Paul, qui est le dernier auditeur, rapidement, le temps que notre invité puisse conclure l'échange. Marie-Paul, en bref, vous avez suivi les uns et les autres. Votre point de vue autour de cette question, Marie-Paul? Voilà, des petits soucis aussi et des lignes aujourd'hui avec les auditeurs, surtout en province. Alors, beaucoup de commentaires, je le disais tout à l'heure, le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Lungas Ilunga, qui est à Mouenéditou, dit la même chose. L'initiative des 13 personnalités sur la réforme électorale déposée à l'Assemblée nationale doit être soutenue par tout le monde parce que cela tombe exactement au moment où nous avons besoin de réformes. Et il interpelle aussi le camp FCC pour pouvoir s'aligner dans cette logique. Alors, on revient à vous, Délice Sanga. Vous avez suivi les compatriotes, le débat il est très intéressant, on poursuit, tout le monde souhaite que les gens s'inscrivent dans cette logique, mais tout en sollicitant aussi auprès des autres acteurs politiques, n'est-ce pas, la compréhension plus large de votre démarche, pour qu'on ne considère pas que c'est une démarche qui appartient seulement au groupe des G13. Mais alors, pour terminer, il y a aussi cette question de discussion au niveau des institutions soulevée par d'autres acteurs politiques, c'est quoi exactement?
Écoutez, pour beaucoup, ils pensaient que nous allions discuter uniquement en dehors des institutions. Mais pour nous, la discussion en dehors des institutions, elle était préalable pour pouvoir fluidifier la discussion institutionnelle. Nous n'avons jamais dit que notre démarche était pas institutionnelle. Notre démarche était bel et bien institutionnelle. Et pour beaucoup qui redoutaient cette dimension, ils pensaient que nous étions à la recherche d'un dialogue, ce qui n'a jamais été notre cas. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient, les propositions sont sur la table. Et bien évidemment, c'est un débat, c'est une discussion, c'est pas fermé. Et nous allons continuer à rechercher ces consensus le plus largement possible. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le pays attend de réformes et il faut que ces réformes soient accomplies dans le délai. Mmh. Parce que vous savez qu'à partir du 15 septembre dernier jusqu'au 30 décembre 2023, il nous restait 1111 jours pour pouvoir aller vers les élections. Et donc, dans ces 1111 jours, il faut finaliser le fichier électoral, il faut faire la loi électorale, il faut avoir du matériel, il faut préparer les opérations, il faut recevoir les candidatures, ainsi de suite. Et donc, le temps ne doit pas être considéré comme étant notre allié dans cette affaire. Et donc, nous devons gérer le temps, être efficace et répondre aux souhaits de nos populations, aller beaucoup plus vite pour que les élections qui viennent soient des très, très bonnes élections. Mmh. Moi, je pense qu'il n'y a pas de clé en dehors de la discussion, il n'y a pas de clé en dehors du consensus, mais il faudrait que tout le monde comprenne qu'au-delà des camps politiques, que l'on soit FCC ou pas, il y a l'intérêt général qui compte et le peuple doit se mobiliser autour de cet intérêt général.
Alors, vous avez déposé la proposition de loi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, mais dans votre agenda, est-ce qu'il faut d'abord attendre l'examen ou que ce soit inscrit, ou vous estimez qu'il y a d'autres démarches que vous pouvez, parce qu'il y a auditeur qui a parlé tout à l'heure de d'autres alternatives dans cette démarche?
Nous allons sensibiliser le peuple, nous allons sensibiliser la nation, nous allons parler avec d'autres qui n'ont pas été avec nous dans la phase des consultations pour qu'ils comprennent les bien fondés de nos propositions et qu'ils enlèvent ces défenses qu'ils se donnent par rapport à une ligne. Ils ont émis un jugement de valeur, mais là nous avons des propositions concrètes qui réagissent par rapport à ça et le pays va gagner et nous allons avancer.
Et nous, il nous reste, je crois bien, juste 40 ou 50 secondes pour vous de lancer le dernier message qui va être considéré comme votre mot de conclusion pour cet échange.
Mon message, c'est au peuple congolais, nous l'appelons à se mobiliser dans toutes ses composantes pour s'approprier de ces réformes électorales et qu'elles puissent exiger de leurs élus de s'impliquer dans ces réformes, parce qu'il n'y a que cette manière que les élections pourront devenir un levier pour le pays et non pas un boulet pour la nation. Les élections doivent être le moment où on choisit les dirigeants. Ça doit se passer dans la sérénité, dans la paix, dans la transparence. Ensuite, les institutions doivent être débalancées de toutes les contestations pour pouvoir se mettre au travail du peuple. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les institutions sont bloquées dans une crise préélectorale, elles sont bloquées dans une crise post-électorale. Regardez aujourd'hui, plutôt que de gouverner, la majorité, la coalition est dans les débats des contradictions sur la gestion du pouvoir. On va aller comme ça 3 ans qui vont être gaspillés et après cela, on aura des élections. 3 ans après les élections, elles seront gaspillées. Quand est-ce que les institutions vont travailler pour la paix, pour la sécurité, pour le développement économique de notre pays? Il faut que cette question soit réglée une fois pour toutes. Une fois qu'elle est réglée, en ce moment-là, les institutions pourront se mettre au travail de notre peuple.
Merci beaucoup, Délice Sanga, député national. Merci d'avoir accepté d'échanger avec les auditeurs autour de cette question.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
C'est la fin de ce magazine mis en onde réalisé par Polydor Basunga. On se retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Cette émission est sur www.radiocapi.net. Pour moi, Piro et Lamedji, ça a été un réel plaisir de vous l'avoir présenté. Alors, nous poursuivons le débat sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Merci et au revoir.